Merci beaucoup. Alors, excellente introduction. Pratiquement tous les thèmes qui vont être abordés ont été mentionnés, sans concertation préalable. Alors, l'eau, acteur majeur du système climatique, donc le but de l'exposé, ça va être d'abord de dire un petit peu de quoi on parle quand on parle de climat, et ensuite d'expliquer quel est le rôle, mais en fait, quels sont les rôles de l'eau qu'on retrouve absolument partout dans le système climatique, dans le fonctionnement de la machine, et puis ensuite de parler un petit peu d'eau et de changement climatique, à la fois en quoi l'eau contribue à expliquer certains aspects du changement climatique, et le point de vue inverse, en quoi le changement climatique va impacter le cycle de l'eau. Alors tout d'abord, la notion de climat. En fait, on se pose souvent la question de quelle est la différence finalement entre le climat et la météorologie. Pour faire très bref, c'est la distinction entre une réalisation, donc là on va avoir un point de vue un petit peu statistique et probabiliste. Si on regarde la température d'une journée précise à Paris, par exemple, là c'était un exemple utilisé pour un cours, le 26 mai 2014 à Paris, on a eu 21 degrés, un petit peu plus. C'est une observation précise, mais on peut s'intéresser à l'ensemble, par exemple, des 26 mai à cet endroit-là, et puis regarder l'ensemble des réalisations qu'on a dans les enregistrements météorologiques, et puis s'intéresser ensuite à leur distribution statistique. Et c'est quand on passe à ce point de vue de distribution qu'on commence à s'intéresser à la notion de climat. Donc pendant longtemps, les gens ont résumé ça à des valeurs moyennes, en fait, hein. Souvent, décrire le climat, c'est décrire la température moyenne attendue à un moment de l'année. Mais en fait, c'est un petit peu plus général que ça. C'est l'ensemble de la distribution, ce qui inclut les moyennes, mais aussi les variations qu'on peut observer et éventuellement les valeurs les plus extrêmes qui sont souvent très dimensionnantes, en fait, pour plein d'activités. Alors, une autre illustration de ça, si on arrive cette fois-ci sur le cycle de l'eau, que je trouve assez amusante, c'est par exemple si on regarde les précipitations en France et si vous vous demandez où il pleut le plus en France. Bon, ça, c'est une question qui anime souvent toutes sortes de discussions. Il y a plusieurs points de vue, en fait, pour répondre à cette question. Et la carte de gauche montre une carte des cumuls annuels de précipitations, donc à l'échelle du pays, en chacun des lieux. Et vous pouvez. Alors, bon, il peut y avoir différentes interprétations, hein, bien sûr, de cette carte. Bon, principalement, ce qu'on peut retenir, ce que je propose aujourd'hui comme interprétation, c'est en fait il pleut beaucoup en montagne. Les massifs montagneux ressortent très nettement de cette carte. Et puis, donc ça, c'est vraiment la quantité d'eau qui tombe sur l'ensemble de l'année, sous forme de pluie et neige. Et puis la carte du milieu, c'est le nombre de jours de pluie, également cumulé sur l'ensemble de l'année. Si on regarde cette carte-là, bon, il y a des petites variations, mais on peut être tenté de dire finalement, il y a surtout une région en France où il pleut moins qu'ailleurs, c'est le pourtour de la Méditerranée. Et puis finalement, le reste, il pleut quand même à peu près de façon assez homogène. Bon, et puis il y a encore un autre point de vue qui est de dire où c'est que de temps en temps, il pleut vraiment des grandes quantités de pluie. Alors pour regarder ça, on peut s'intéresser. Alors ici, on a calculé les niveaux de retour d'isant. Ça veut dire c'est la quantité maximale d'eau qui tombe sur une journée, la plus forte qui va revenir en moyenne une fois tous les 10 ans. Donc souvent, c'est vraiment des grosses quantités d'eau, hein. Là, on est sur des échelles, disons ici, on doit être autour de 80-100 mm en une journée. Et ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'en fait, si on se base sur ce critère-là, les régions en France où il pleut le plus, c'est autour de la Méditerranée. Donc c'est le point de vue pratiquement inverse, et en particulier les reliefs qui sont dans ces régions-là. Et un relief ici que vous pouvez voir, qui est le relief dit Cévenol. Voilà, c'est la barrière sud du Massif central, où là, on a fréquemment des valeurs de 400 mm, 500 mm en une seule journée qui peuvent être observées. Donc selon la caractéristique de la distribution qu'on regarde, ben, on a des caractéristiques comme ça du climat très différentes qu'on peut mettre en évidence. Alors, ensuite, l'eau dans le système climatique. L'eau dans le système climatique, comme ça a été dit en introduction, elle est partout. Et pour décrire le fonctionnement du système climatique, dans le système climatique, pour l'introduire rapidement, c'est évidemment l'atmosphère, principal lieu des phénomènes météorologiques, et puis le climat tel qu'on l'appréhende, mais en fait l'atmosphère interagit en permanence et des grandes quantités justement d'eau et d'énergie avec l'océan, donc l'océan est partie intégrante du système climatique, et puis en fait si on continue à tirer le fil, il y a tout un tas d'autres composants, les surfaces continentales, toute l'hydrosphère continentale, les lacs, les rivières, la biosphère et également la cryosphère. Il s'agit toujours d'eau, mais cette fois-ci sous forme solide, à savoir glace et neige, qui jouent un rôle aussi clé, je vais en reparler. Alors si on veut décrire un peu le fonctionnement de ce système climatique, et notamment du point de vue du cycle de l'eau, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder un peu d'abord où on trouve de l'eau. Alors sur ce schéma-là, qui est issu d'une publication qui a qui a 10 ans, mais qui reste, les chiffres sont toujours d'actualité. On a d'abord des chiffres comme ceux-là dans des boîtes qui indiquent la quantité d'eau contenue dans les différentes composantes. Et vous, sans surprise, donc, c'est l'océan qui est le plus grand réservoir d'eau. Pas de problème, ça c'est attendu. Suivi d'assez loin, même de très loin, par l'ensemble de la glace, en fait, neige et glace. En particulier, le grand contributeur à ça, c'est les calottes polaires, donc Groenland et Antarctique. Bon, ça c'est attendu. Et ensuite, on peut se demander quels sont les autres réservoirs. Alors là, ça devient plus difficile. En fait, il y a un réservoir qui est presque aussi gros que la glace, qui sont l'ensemble des eaux souterraines. C'est une grande quantité d'eau et c'est aussi en fait le réservoir le plus mal connu dans l'estimation vraiment précise des volumes d'eau disponibles. Et puis ensuite on descend, donc on a de l'eau contenue dans les sols gelés qui ne sont pas des calottes glaciaires, qui sont vraiment des sols gelés en permanence, qu'on appelle le permafrost dans les régions arctiques notamment. Et puis on continue et puis en fait très loin dans cette liste se trouve un assez petit réservoir qui est l'atmosphère. L'atmosphère contient de l'eau. Un peu sous forme liquide, c'est les gouttelettes des nuages, sous forme solide, c'est les cristaux de glace des nuages de glace, et aussi beaucoup sous forme gazeuse, c'est la vapeur d'eau. Et en fait, c'est un très petit réservoir, et c'est à comparer, alors cette fois-ci, je vais arrêter de parler des volumes, et je vais parler des flux, des échanges d'eau quantitatifs, c'est à comparer aux flux, ici, donc aux échanges qu'il y a en permanence d'eau entre l'océan et l'atmosphère, qui sont représentés par ces deux flèches là, de l'évaporation et puis de la reprécipitation au-dessus de l'océan, qui eux sont les flèches les plus importantes de ce diagramme. Et donc il y a cette propriété assez remarquable qu'en fait l'atmosphère contient très peu d'eau, mais on en échange en fait énormément avec l'océan, ce qui fait que le temps de vie d'une molécule d'eau dans l'atmosphère est en fait très court, c'est de l'ordre de quelques jours seulement. Et puis ensuite donc on peut aller plus loin dans la description des flux vraiment et voir que le cycle de l'eau, donc les mouvements de l'eau dans ce système climatique, en grande partie, c'est de l'eau qui est évaporée, c'est-à-dire les deux vraiment principales flèches, c'est de l'eau qui est évaporée sur océan et qui reprécipite sur océan, et finalement c'est de l'eau qui intéresse pas tant que ça les activités humaines, la plupart d'entre elles en tout cas. Ensuite, on a un flux d'eau de l'océan vers les continents, et puis également un cycle de l'eau au-dessus des continents, de l'eau qui précipite sur continent et qui est éventuellement réévaporée des continents vers l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'à échelle de la planète, l'essentiel de l'eau qui tombe sous forme de pluie sur les continents et de l'eau qui avant a été évaporée également sur les continents. Ce qui n'est pas forcément intuitif. Ce n'est pas forcément le cas pour des régions comme la France, qui sont directement en façade atlantique, dans un régime de vent dominant d'ouest, qui apporte beaucoup d'humidité en provenance de l'océan. Voilà pour la description rapide du cycle de l'eau. Je ne suis pas rentré dans les détails. Une autre caractéristique importante du système, évidemment, et c'est très important du point de vue du changement climatique, c'est le bilan d'énergie. Donc on peut décrire les échanges cette fois-ci, non pas d'eau, mais d'énergie dans le système. Alors, à nouveau un schéma qui résume un petit peu le fonctionnement de la machine. La principale source d'énergie, c'est le rayonnement solaire au sommet de l'atmosphère, qui est représenté par cette flèche descendante ici. Et alors, ce sur quoi je vais insister dans cette présentation, c'est vraiment où intervient l'eau dans ce bilan-là. Donc voilà, flux solaire incident. Une partie est absorbée par l'atmosphère. Une partie est réfléchie par l'atmosphère, et principalement dans cette réflexion, enfin disons, un des grands contributeurs à cette réflexion, ce sont les nuages, qu'on peut voir très blancs sous des images satellites, et donc qui sont relativement efficaces pour réfléchir à l'énergie solaire, et donc c'est évidemment une conséquence de la présence de l'eau. Puis ce rayonnement se rapproche de la surface, une partie du rayonnement est réfléchie en surface, et ce qui est très efficace pour réfléchir du rayonnement solaire, c'est de la neige ou de la glace, et donc c'est à nouveau une conséquence de la présence de l'eau. Puis le reste est essentiellement absorbé par la surface. On a ensuite des échanges de chaleur directement de la surface vers l'atmosphère. Et puis surtout, en réponse à ça aussi, un terme important ici qui est l'évaporation. Donc c'est simplement le fait qu'on a besoin d'énergie pour transformer de l'eau liquide en eau gazeuse, vapeur d'eau atmosphérique. Et donc c'est évidemment toujours, intégralement, cette flèche est imputable à la présence d'eau dans le système. Et puis ensuite, il y a un autre aspect important du fonctionnement de la machine climatique qui est en fait l'effet de serre. Donc pour compenser cette arrivée d'énergie par le soleil, la surface émet elle-même du rayonnement dans les longueurs d'onde infrarouges, c'est le rayonnement thermique, et cette énergie donc émise par la surface, en grande partie, est absorbée par l'atmosphère, puis ensuite en partie renvoyée vers l'espace, et en partie réfléchie vers la surface. Et c'est ça l'effet de serre, c'est la capacité de l'atmosphère à intercepter en fait le rayonnement émis par la surface, et en rediriger une partie, en fait, vous pouvez voir sur ce graphique une grande partie, vers la surface. Là-dedans, quels sont les grands contributeurs à l'effet de serre? Alors en fait, ça c'est une question souvent piège. Le gaz à effet de serre principal dans l'atmosphère, on pourrait faire un sondage dans la salle. Souvent les gens pensent que c'est le CO2. En fait, non, c'est la vapeur d'eau. Et de loin. Et donc l'eau contribue beaucoup à l'effet de serre. Et du reste, il y a un autre contributeur fort à l'effet de serre, c'est la présence de nuages qui sont aussi très efficaces pour absorber ces rayonnements émis par la surface. Donc l'eau vraiment intervient en fait dans pratiquement tous les aspects de ce bilan d'énergie. Pour expliquer alors d'abord en termes de principe, donc comment ça marche le changement climatique et quel est le rôle de l'eau dans le changement climatique. Après je parlerai de l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau. En fait le changement climatique c'est simple, c'est une perturbation par en l'occurrence les activités humaines, du bilan d'énergie que j'ai présenté juste avant et discuté. En l'occurrence, l'émission de gaz à effet de serre, qui font qu'on augmente un petit peu l'effet de serre, on augmente la capacité de l'atmosphère à intercepter le rayonnement émis par la surface, et donc on crée un déséquilibre dans le système, puisque l'énergie qui rentre, émise par le soleil, n'est plus égale à l'énergie qui sort, puisqu'on a, comme on a augmenté l'effet de serre, on a un petit peu diminué la quantité d'énergie qui ressort du système. Comme le système, du coup, est en déséquilibre, il stocke de l'énergie, autrement dit, il se réchauffe. Et c'est ça le principe, très simplement. Alors ensuite, la perturbation initiale qui consiste à mettre des gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère, en fait, va être modulée, donc implique une réaction du système, en l'occurrence un réchauffement, et le réchauffement va lui-même modifier le bilan d'énergie. Et en fait, la plupart des flèches que j'ai discutées vont se retrouver modifiées par le fait qu'il y a une petite perturbation initiale. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'eau en fait, a un rôle amplificateur très fort, pour plusieurs raisons, et c'est donc cette partie un petit peu théorique que je voulais discuter aujourd'hui. La première, c'est ce qu'on appelle des rétroactions, c'est-à-dire ce sont des mécanismes de réponse à une perturbation initiale, mais en fait qui vont elles-mêmes amplifier ou éventuellement réduire la réponse du système à cette perturbation initiale. Donc le premier élément là-dedans, c'est ce qu'on appelle la rétroaction vapeur d'eau, en fait. Si on chauffe un petit peu le système, donc ce qui se passe avec la perturbation, l'ajout de gaz à effet de serre, on a une atmosphère qui est également plus chaude, et on sait qu'une atmosphère plus chaude a une plus grande capacité à contenir de la vapeur d'eau. Et donc en fait, l'atmosphère se met à s'humidifier un petit peu de cette façon-là, contenir un peu plus de vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau est le gaz à effet de serre le principal et le plus efficace du système, et donc en fait, on renforce encore l'effet de serre. Donc ça, c'est un premier mécanisme de rétroaction. On parle de rétroaction positive, parce qu'en fait, c'est un accroissement de la réponse. Il y en a un deuxième qui est que si on chauffe un petit peu le système, on a tendance à faire fondre la glace et la neige là où il y en avait. Or, ce sont des constituants qui réfléchissent le rayonnement solaire. Et si on réfléchit moins de rayonnement solaire, on réchauffe davantage. Donc c'est de nouveau une rétroaction positive et elle est importante également. On parle de rétroaction de l'albédo. L'albédo, c'est la capacité du système à réfléchir le rayonnement solaire. Et puis il y en a une troisième, alors qui elle donne du fil à retordre à la communauté des scientifiques, qui concerne les nuages. En fait, on a toujours beaucoup de mal à dire exactement de quelle façon la perturbation initiale, en l'occurrence, va modifier la couverture nuageuse. Et on a dit que les nuages étaient également très importants, à la fois pour l'effet de serre et pour leur capacité à réfléchir le rayonnement solaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à estimer, mais globalement, depuis quelques années maintenant, le consensus est plutôt vers une rétroaction qui serait également positive. Alors tout ça, évidemment, c'est pas on parle de boucles de rétroaction, c'est pas des choses qui continuent à l'infini, donc le réchauffement ne va pas s'amplifier à l'infini, ça s'arrête, ça a une fin. Simplement, ça indique que la réponse du système est plus forte que si ces mécanismes de rétroaction n'existaient pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la façon dont le changement climatique a perturbé le cycle de l'eau? Évidemment, souvent quand on parle de changement climatique, la première variable qu'on vous montre, c'est l'évolution dans le temps de la température moyenne de la planète. C'est un peu le produit phare de la gamme. J'en ai déjà parlé il y a 2 ans lors de ces mêmes journées, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir un peu d'autres aspects plus liés directement au cycle de l'eau. Et un des aspects qu'on peut mentionner en premier, parce qu'il concerne beaucoup de gens, pas forcément le territoire du PNR en priorité, mais c'est la montée du niveau de la mer, qu'on observe déjà, qui est bien documenté depuis ici. Donc vous avez un graphique à gauche qui montre la montée de ce niveau moyen de la mer en moyenne planétaire, hein, donc au cours de à peu près 130 ans. On a à peu près une vingtaine de centimètres de plus rajouté au niveau de la mer sur cette période. Et ça va certainement continuer, je vais en reparler tout à l'heure. Alors ce qui est moins connu sur la hausse du niveau de la mer, c'est qu'en fait, la montée de la mer n'est pas du tout uniforme dans l'espace. Il y a des régions où la mer monte très peu, et même pas du tout. Et il y a des régions où elles montent beaucoup plus que la moyenne globale. Et cette carte à droite ici illustre un petit peu ces vitesses différenciées de hausse du niveau de la mer. Alors pour tout un tas de raisons, hein, si on change un petit peu les vents sur un bassin océanique, ben on va changer la hauteur relative de la mer en différents lieux. Donc la moyenne globale n'est pas indicative de toute l'information. Et en particulier, vous pouvez voir qu'il y a une région ici en bordure de l'océan Pacifique dans laquelle la mer monte pratiquement 3 fois plus vite que la moyenne planétaire. Ça, c'est une propriété un petit peu remarquable et un petit peu inattendue. Du reste, j'ai choisi de parler de ça aussi parce que cette thématique de recherche-là, c'est l'observation par satellite a joué un grand rôle dans notre capacité à bien mesurer le niveau de la mer. Et donc, ça fait partie des thématiques sur lesquelles la communauté toulousaine est vraiment très active et en pointe au niveau, donc pas moi du tout personnellement, mais d'autres laboratoires à Toulouse. Une autre chose qui est très bien observée, c'est la réduction très importante de la couverture de glace, en particulier de glace sur l'océan. Les calottes polaires comme le Groenland Antarctique, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quelques kilomètres d'épaisseur de glace. Et donc ce n'est pas des objets qu'on arrive à faire fondre très facilement du jour au lendemain. Par contre, la glace, la banquise qui se trouve sur l'océan, là c'est plutôt de l'ordre du mètre, quelques mètres d'épaisseur. Et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile. Et en fait c'est quelque chose qui a déjà beaucoup fondu. Donc en particulier si on s'intéresse à la couverture de banquise à la fin de l'été, donc au moment où elle est la plus réduite, ces deux figures illustrent, alors ce sont des cartes, hein, vous avez évidemment, c'est produit par des services américains, donc ils mettent l'Amérique du Nord au premier plan, vous avez l'Alaska ici, le Canada, la Russie se trouve là, la Sibérie, et puis ici on a l'Islande et puis la Norvège, et l'Europe se trouverait par là. Et puis le Groenland évidemment, qui peut servir de point de repère. Ce sont des cartes qui montrent les étendues de banquise à la fin de l'été, en 1979, première année pour laquelle on avait des mesures satellites, et puis là, en 2012, c'est l'année du record de plus faible extension. En fait, on a déjà eu c'est plus qu'une division par deux, quoi, de l'étendue de glace à la fin de l'été. Évidemment, ça c'est très important parce que, comme je l'ai dit, comme la glace réfléchit le rayonnement solaire, c'est déjà un mécanisme amplificateur du réchauffement qui est déjà bien en cours, quoi. Alors, dans les Pyrénées, évidemment, il y a une déclinaison de ces critères-là, la glace. On a plusieurs glaciers qui sont un petit peu suivis, et surtout on a des glaciers qui sont bien documentés d'un point de vue historique, parce qu'on a des photos anciennes de ces glaciers, donc on peut mesurer de cette façon la façon dont ils ont en partie fondu. Et puis donc, il y a un ouvrage de Pierre René qui s'appelle Glaciers des Pyrénées en 2013, que je recommande, qui documente pour vraiment un grand nombre de glaciers des Pyrénées. C'est étonnant de voir le nombre de glaciers pour lesquels on dispose de photos anciennes, qui documente donc cette fonte. Donc ici c'est le glacier d'Ossou, Vignemale, hein, 100 ans d'intervalle. Et puis on a, alors moi à titre personnel, donc ça c'est un des glaciers les plus étudiés, parce que c'est le plus gros glacier du versant français. À titre personnel, ce qui m'impressionne presque davantage, ce sont des glaciers qui sont moins grands, alors surtout aujourd'hui, mais en fait qui ont déjà pratiquement disparu, alors qu'en fait le volume de glace présent il y a 130 ans, c'est des glaciers déjà épais, qui ont plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, et qui ont pratiquement complètement disparu aujourd'hui. Et donc sur le territoire du parc, à ma connaissance, le seul glacier un petit peu substantiel, c'est le glacier d'Arcouzan. Et il semble être... alors il a réduit, bien sûr, hein, il a réduit, mais il semble être... On aurait pu penser, vu son altitude et vu son étendue modeste, qu'il allait être parmi les premiers à être rayé de la carte. Donc il semble être un petit peu plus robuste que d'autres, par exemple dans le Luchonnet, ne l'ont été. Bon, bien sûr, il ne sera pas épargné par le réchauffement qui est attendu encore dans les décennies à venir. Hein. Voilà, alors un autre exemple de recherche plus personnelle, c'est des travaux récents faits à Météo France sur les changements, cette fois-ci, sur les événements de forte précipitation, donc les extrêmes, comme j'ai discuté tout à l'heure, au cours du temps. Ici, on s'est concentré donc sur la région méditerranéenne, celle qui en France voit les extrêmes, les événements les plus forts de pluie, en fait. Et puis on s'est demandé si on avait déjà la trace dans les observations d'une intensification de ces événements extrêmes. Et la réponse a été plutôt oui. En fait, on estime que depuis 55 ans de données qu'on a disponibles pour l'analyse statistique, eh bien on a mesuré une hausse limitée. Hein. Ici, on a estimé à plus de 20%, mais il y a des barres d'erreur substantielles là-dessus. Mais on peut montrer significativement qu'il y a quand même déjà un accroissement de ces événements extrêmes dans les données qu'on a depuis à peu près un peu plus de 50 ans. Voilà. Donc ensuite, la plupart des tendances que j'ai mentionnées ici, l'intensification des événements de précipitation extrême, par exemple, la hausse du niveau de la mer, sont des choses dont on s'attend à ce qu'elles se poursuivent et s'amplifient au fur et à mesure qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre et que le système continue d'essayer de rattraper son retard pour retrouver un équilibre par rapport aux nouvelles concentrations de gaz à effet de serre qu'on impose dans l'atmosphère. Voilà, je vous remercie.